Soirée spéciale, élection présidentielle, second tour. Avec Ipsos Soprasteria, France 2, Le Monde et Le Point, sur France Inter.
Et rebonsoir à vous tous, bienvenue dans cette édition spéciale que vous propose France Inter pour le second tour de l'élection présidentielle. Une grande soirée politique à vivre ensemble jusqu'à minuit. La rédaction et la rédaction web d'Inter sont mobilisées, les équipes techniques de Radio France aussi, nos envoyés spéciaux sont partout dans le pays, grandes et petites villes. Nos reporters seront dans les QG des candidats avec les militants et les sympathisants des différents partis, d'autres encore sillonneront sur les motos de Radio France la capitale, Paris, pour vous faire vivre cette nuit électorale. 19h20-20h, analyse de la dernière ligne droite de la campagne, la participation notamment. 20h, les résultats et le nom du 8e président de la 5e République en studio. Nos invités, nos analystes pour comprendre ce moment crucial de la vie démocratique de notre pays. Avec moi jusqu'à minuit de l'autre côté de la vitre du studio 511, aux manettes en régie, Élise Christophe et Maxime Ingrand. Le commandant de bord, c'est Michael Thébault à la rédaction en chef. Son copilote s'appelle Amélie Stadelmann. Qu'ils soient tous remerciés. Je suis très heureux de travailler avec eux pendant 6 heures.
France Inter. Nicolas Demorand.
Et pour commencer, économie, diplomatie, les chantiers du prochain quinquennat sous des formes diverses. L'économie a été au cœur de cette campagne avec les couleurs politiques des uns et des autres. Le constat a été fait d'une France en crise qui cherche encore et toujours sa place dans la mondialisation avec les conséquences que cette dernière peut avoir sur la vie de nos concitoyens. Alors dans quel état le prochain président de la République va-t-il trouver le pays ? C'est la question à plusieurs centaines de milliards d'euros qu'on va poser à Daniel Cohen. Bonsoir et bonsoir. Merci d'être avec nous au micro de France Inter. Bruce de Galzin, bonsoir.
Bonsoir.
Chef du service économie de la rédaction d'Inter. Arnaud Le Parmentier du quotidien Le Monde est en train de s'installer ici en studio. Et dans quelques instants, Luc Lemonnier, bonsoir.
Bonsoir.
Chef du service étranger d'Inter. On verra quels sont les grands dossiers de politique étrangère et de diplomatie qui vont occuper le prochain quinquennat. Question de curiosité, Daniel Cohen, quel regard l'économiste que vous êtes a porté sur cette présidentielle ? Elle a duré longtemps, hein ?
Elle a duré longtemps. On a eu droit à deux primaires, donc on a exploré, on va dire, pendant la primaire de la droite et du centre, comme on dit, donc un ensemble de propositions qui allaient très loin à droite, avec un grand choc quand c'était Fillon qui portait les couleurs de la droite, un grand choc fiscal de baisse de dépenses publiques, de baisse des fonctionnaires. Donc on a exploré au fond beaucoup de choses. Je dis ça évidemment de manière neutre. Et puis après, on a eu la primaire de la gauche qui a exploré presque en symétrie que beaucoup d'autres choses autour du revenu universel de Benoît Hamon, et donc on a eu effectivement à ce moment-là deux visions, à la fois d'une France possible, d'un diagnostic totalement différent. Et puis après, bon, il y a eu la campagne dans laquelle on était, mais cet extraordinaire spectre de possibles qui a été évoqué montre en réalité le désarroi où on se trouve tous collectivement sur le remède à la crise, le diagnostic lui-même, et puis la voie. Est-ce qu'il faut encore un choc, une grande thérapie, c'était le projet de Fillon, ou est-ce qu'il faut passer à quelque chose d'autre, un avenir désirable, pour reprendre l'expression de Benoît Hamon, est-ce qu'il faut passer au milieu ? Voilà, c'était un peu tout ça qui marquait, je crois, quand on regardait cette campagne, formidable palette de propositions presque antinomiques les unes des autres.
Quand on est en France, on a le nez sur l'événement et sur le pays. Quand on regarde d'autres démocraties comparables, on s'aperçoit, Daniel Cohen, qu'elles sont en crise, les démocraties à travers le monde. Est-ce que les termes dans lesquels s'exprime cette crise, vous les avez retrouvés là en France ?
Oui, bien sûr. On est en crise, mais encore, je crois qu'il faut être très, très précis sur cette crise-là. Parce qu'il y a en réalité deux crises qui se télescopent et qui ne sont pas exactement de même nature. Il y a une crise qui est la transformation de nos économies, le passage à une société, une économie numérique, post-industrielle, avec des emplois qui ne sont pas du tout les mêmes, les qualifications qui ne sont pas du tout les mêmes, un type d'organisation des entreprises qui ne ressemble absolument plus au type d'entreprise qu'on a pu connaître à l'âge d'or de la société industrielle. industriel. Tout ça, c'est une transformation lente, engagée depuis 20 à 30 ans. Et puis, et je crois qu'il faut vraiment toujours garder ça en tête, la crise qui commence depuis 2008 est une crise qui, bien entendu, est liée aux transformations dont je parle, mais dont les effets ne sont pas du tout de même nature. C'est une crise de croissance faible, de montée du chômage, d'inquiétude face à l'avenir. Il y a une enquête qui a été faite avec les données du CEVIPOF, que le CEPREMAP a co-géré dans l'interprétation qui en a été proposée, qui, je crois, résume tout à fait cette question. Quand on regarde les réponses des personnes à la question « Est-ce que vous pensez que dans 5 ans, votre situation sera meilleure ou pas ?» et qu'on distingue, coupe la France en deux, comme c'est devenu la mode, ceux qui n'ont pas accès à l'enseignement supérieur et les autres. En 2008, à un moment où, je le rappelle, le taux de chômage en France était inférieur à 7% au premier trimestre de l'année 2008. Les perspectives étaient à la fois hautes et en même temps très proches pour les qualifiés et les non-qualifiés. Et c'est vraiment au cours des 10 dernières années que s'est creusé un gouffre entre l'optimisme des plus qualifiés et le pessimisme de ceux qui ne le sont pas. Et ça veut dire que la crise financière de 2008 et ce qu'elle a provoqué comme effet, y compris d'ailleurs en Europe, et le ressentiment à l'égard de l'Europe qui a mal géré cette crise, au fond, est d'ordre, on va dire, plus simple. C'est une crise financière dont les implications macroéconomiques ont été mal gérées et ça n'est pas directement lié aux grandes incertitudes, même si, bien entendu, ils entrent en résonance les unes avec les autres. Et je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête pour comprendre le diagnostic sur la France. Il faut d'abord sortir de cette crise macroéconomique, macro-financière qu'on connaît depuis 10 ans. Et puis, il faut, bien entendu, simultanément réfléchir à la France du 21e siècle, de l'économie numérique, de l'économie de la connaissance, des inégalités, mais qui exige d'une certaine manière un autre regard que celui qu'on peut porter sur les urgences de la situation macroéconomique.
Permettez-moi une dernière question avant qu'on entre dans le vif du sujet économique, Daniel Cohen. Est-ce que toutes les crises économiques, est-ce que toutes les crises financières ont pour revers, pour versant, des crises morales et politiques ?
Très souvent, quand on regarde, absolument, on regarde la situation des États-Unis dans les années 20, des années 30. C'est extraordinaire. Dans les années 20, les États-Unis connaissent leurs 10 glorieuses, comme on pourrait dire. On appelait ça les Roaring Twenties. C'est l'époque de Fitzgerald, les filles s'habillent en garçons. Hein, c'est le fameux livre Flappers and Philosophers de les garçons, les garçons et les philosophes. Le titre d'un recueil de nouvelles de Fitzgerald. Les jupes raccourcissent. Mais plus de gants ou de chapeaux. Il y a quelque chose comme nos 30 glorieuses à nous qui se produisent en 10 ans aux États-Unis parce que c'est l'effervescence, l'ivresse d'une croissance économique débridée. Et puis viennent les années 30 et tout change. C'est-à-dire les années 30, c'est la montée aux États-Unis de l'antisémitisme, c'est on revient à des codes moraux beaucoup plus rigoureux, etc. Donc on voit bien qu'en effet, on ne peut pas distinguer la question morale et la question économique. Ça ne veut pas dire que la question économique prédétermine entièrement la question morale, bien sûr que non, mais ça veut dire qu'il y a comme un balai entre les deux et l'économie joue son rôle, indiscutablement. Et donc, je rappelle aussi tout simplement, à l'élection présidentielle de 2007, Le Pen faisait 10%. Parce que on avait retrouvé une forme d'aisance avec la croissance économique. Donc, ne jamais sous-estimer, en effet, le simple fait de savoir est-ce que l'emploi, le chômage vont bien. Avant, bien entendu, de réfléchir en profondeur à la question de l'inégalité sociale de destin et de savoir quelle est la place de chacun dans ce grand bateau qui est l'économie française.
Alors précisément, Daniel Cohen, avant de voir à quoi pourraient ressembler les 5 années qui viennent, tentons de faire un bilan à l'instant T du quinquennat qui s'achève. Si on veut dresser un état économique des lieux, la question est massive, mais on a du temps pour la raffiner. Un état des lieux économique à l'instant T, on regarde où, on regarde quoi, d'après vous ?
En vertu de ce que je viens de dire à l'instant, on regarde d'abord, est-ce que le taux de chômage se stabilise ? Est-ce que l'emploi repart ? Est-ce que la croissance économique est au rendez-vous ? La réponse est oui, mais très timidement, indiscutablement. On est sorti de la crise depuis maintenant 2 ans, au sens vraiment littéral du terme. C'est-à-dire que la croissance recommence à trouver des niveaux supérieurs à 1%. C'est pas brillantissime, hein. C'est 1,2, 1,1%. Mais l'économie recommence à créer des emplois. Mais comme on a une démographie, c'est la chose dont les Français se félicitent toujours, qui est assez dynamique, ça suffit pas à faire baisser le chômage significativement. Mais on peut dire qu'on a, malgré tout, quitter l'état de dépression où on était depuis, encore une fois, 2008-2009. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant à redonner spontanément à la France une force macroéconomique qui lui permettra de considérer que la question du chômage va se régler toute seule? Ça, c'est quand même la grande incertitude. Parce que, malgré tout, l'année qui vient de s'achever, l'année 2016, a été assez décevante en termes de croissance économique, à peine supérieure à 1%, alors que les paramètres macroéconomiques étaient très favorables. On avait des taux d'intérêt très faibles, on avait du prix de l'énergie qui était très bas, on a un euro qui a beaucoup baissé relativement au dollar, donc ça redonnait de l'air aux exportateurs. Et malgré tout ça, on a une croissance qui reste très faible. Peut-être que les cicatrices de la crise restent profondes, peut-être que tout ça n'est pas fini. Les incertitudes politiques qui se sont multipliées en 2016 avec le Brexit, l'élection de Trump, et puis aussi, même si on n'a pas le droit d'en parler trop, enfin, cette
on n'a pas le droit d'en parler du tout.
De l'élection de,
c'est réglé.
On a quand même le droit de dire qu'on est un jour où les Français vont choisir un nouveau président.
Oui, jusque-là,
et donc,
vous pouvez
tout
le dire.
Ça crée un climat, une incertitude qui s'est ajoutée, qui peut-être a bridé la reprise économique.
Avant de donner la parole à Bruce de Galzin, on va faire un détour par la place Beauvau, où nous attend Estelle Schmitt. Estelle, chiffre de la participation faible pour ce deuxième tour.
Oui, une participation à 17h qui est en nette baisse par rapport au premier tour à la même heure, puisqu'elle est aujourd'hui de 65,30%. En premier tour, il y a deux semaines, elle était de 69,42%. Et puis d'autres chiffres encore, ceux de la participation des précédents scrutins présidentiels à la même heure dans des seconds tours, inférieurs également. En 2012, par exemple, 71,96%. 2007, 75,11%. 2002, 67,62%. En 2017, on est donc en dessous. Et vous l'imaginez, une participation qui varie d'un département à l'autre. Il y a les bons élèves. En 2017, à 17h, on a le plus voté dans l'Allier, à 72,64%, presque similaire dans l'Eure et les Deux-Sèvres. Puis dans les Côtes-d'Armor et le Cantal, à plus de 71%. On s'est moins déplacé en Corse du Sud, 53,68%. En Seine-Saint-Denis, 54,65%. Ou encore en Haute-Corse, un peu plus de 56%. Participation en métropole de 65,3% à 17h. Évidemment, le taux n'est pas définitif. Les bureaux de vote ne sont pas fermés. Le chiffre définitif, lui, sera-t-il inférieur à celui du premier tour où la participation était de 77,77%. Si c'était le cas, ce serait une première depuis la présidentielle de 1969, ou un petit peu moins de 69% de participation.
Estelle Schmitt en direct de la place Beauvau. Merci, on vous retrouvera bien entendu tout à l'heure. La parole donc à Bruce de Galzin.
Oui, pour revenir sur ce thème principal quand même, et chantier immense qu'aura notre futur président ou présidente, le chômage. Ça fait un an et demi, en gros, que le chômage baisse, 9,7% aujourd'hui, taux de chômage 10,2 il y a un an et demi, mais encore très loin de la moyenne européenne et surtout très loin des Allemands. Alors la comparaison peut être un peu simpliste, mais les Allemands ont créé 2 millions d'emplois en 10 ans, emplois dans le privé, lorsque nous en créions 200 000, et c'est juste ces dernières années. J'ai l'impression qu'il y a une tendance assez forte de non-création d'emplois dans le numérique chez nous. Donc moi, je m'adresse à vous, Daniel Cohen, pour comprendre si là, vraiment, il y a une sphère que l'on a du mal à encore saisir en France. J'ai le souvenir de discussions innombrables chez Google, qui a insisté pour nous dire qu'en France, on n'a que 6 PME sur 10 qui ont des sites internet. C'est fondamental, a priori. C'est 9 sur 10 dans les pays nordiques. On a peu de robots encore en France. Est-ce que les créations d'emplois dans le numérique, c'est vraiment une partie de l'avenir de la création de nos emplois? Est-ce que là, il y a un facteur de productivité, de gain de productivité très fort? Ou est-ce que c'est peut-être encore un peu léger?
Daniel Cohen.
Alors, c'est évidemment la grande question pour la décennie et pour comprendre, au fond, dans quel monde on va. Je suis pas sûr, encore une fois, qu'elle soit véritablement liée à ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années, y compris d'ailleurs dans la comparaison avec l'Allemagne. L'Allemagne est rentrée dans la crise de 2008 en meilleure posture que nous, tout simplement parce qu'elle avait eu sa crise au cours de la décennie antérieure, donc elle avait purgé un certain nombre de choses. Nous avons eu une crise qui commence en 2008, je rappelais le taux de chômage en 2008, qui était moins de 7%, même un très bon chiffre par rapport à l'histoire française.
Il était supérieur en Allemagne à l'époque.
Ah oui.
Arnaud Le Parmentier vient de s'exprimer.
Et l'écho, voilà, parce que l'Allemagne sortait de cette crise des années 90. Et la France, bon, c'est peut-être le poids de toutes ces institutions, c'est un pack moulant. C'est-à-dire que quand il y a une grande crise, le chômage passe de 7 à 10. Voilà. Et quand il y a une grosse croissance, il repasse de 10 à 7. Donc on n'est pas comme les États-Unis, capable de faire 10, 4, 5. Non, c'est plus lent parce que, effectivement, on le sait bien, les institutions ralentissent tous ces processus. Donc je pense que si on doit avoir une lecture simple de ce qui s'est passé en France au cours des 10 dernières années, cette lecture-là, au premier ordre d'approximation, suffit. Maintenant, évidemment, il y a le temps court de la macroéconomie et des crises financières et le temps long des transformations des sociétés. Et la question que vous posez, bien sûr, elle est dans ce deuxième registre, en sachant bien entendu que tout ça se mord. Et en effet, la grande question, d'ailleurs, qui avait habité la campagne de Benoît Hamon en son temps, c'était de dire, est-ce que l'économie numérique, eh bien, ne parviendra pas à créer des emplois comme la société industrielle d'hier en avait créé? Et là, je pense qu'il y a une erreur de raisonnement à penser que l'économie numérique ne crée pas d'emplois. Il suffit de voir dans les autres pays, vous citiez l'Allemagne, il suffit de regarder aux États-Unis, ils créent des emplois. Mais ça n'est pas les emplois qu'on a connus auparavant et la vocation spontanée de l'économie numérique n'est pas pour l'instant de créer des emplois là où on va dire ça compte dans nos sociétés, c'est-à-dire au milieu de la distribution des revenus. Ça n'est pas la classe moyenne qui est le principal bénéficiaire de l'économie numérique. C'est en cela que l'économie numérique est inégalitaire. Si je regarde juste les États-Unis, il y a un terme qui s'est imposé dans la littérature, c'est le terme de polarisation du marché de l'emploi. L'économie numérique est très bonne tout en haut. Les gens qui peuvent cliquer et avoir comme ça accès à 1000 informations qui leur permettent d'être ultra productifs et donc se substituer à tous ceux qui pouvaient constituer auparavant le halo d'emplois qui les entourait. Et puis l'économie numérique, en réalité, détruit au milieu tous les emplois dans les banques, dans les administrations, où c'est niché la classe moyenne au cours du XXe siècle. C'est un des paradoxes du XXe siècle, que ce soit à la fois une société industrielle, c'est une société qui est commandée par la fabrication de voitures, d'électroménagers, etc., mais où la classe moyenne, en réalité, a trouvé résidence dans les cols blancs, dans les services, ceux qui font tourner cette machine industrielle. C'est là que se sont trouvées les classes moyennes du XXe siècle. C'est là que le numérique frappe. C'est tous ces emplois de bureaux, d'administration sont en train d'être numérisés. Où vont les emplois? Aux États-Unis où le taux de chômage est moins de 5%. Mais ils vont soit tout en haut, dans les start-up, tout ce qu'on voudra, tout ce récit de l'économie numérique, d'auto-entrepreneurs, etc. Mais ils vont aussi, et en fait surtout, en bas de la distribution de revenus, c'est-à-dire là où le numérique ne peut pas aller, dans le face-à-face, dans les services de proximité, d'aide aux personnes âgées, les assistantes maternelles. On a ça un peu en France, c'est-à-dire qu'en France, quand on regarde que l'économie de services, on laisse l'industrie, parce que bon, c'est d'autres choses dont on est en réalité en train de parler, et maintenant, on voit cette polarisation, on voit qu'en effet, les services d'informatique et autres ont créé au cours des 30 dernières années 200 000 emplois, c'est tout, alors que les emplois de services à la personne mal payés, c'est 1 million d'emplois, les emplois de services aux particuliers, et puis encore un autre million dans les services divers et variés. Donc il y a de la création d'emplois, mais c'est plus inégalitaire, c'est moins intégrateur, et le grand défi en effet, quand on parle de ça, c'est quel est le modèle social qui va nous permettre de tenir quand la classe moyenne tire moins que par le passé la distribution des revenus, et que les emplois qui se créent sont souvent désarticulé par rapport à ce qui avait été auparavant la grande promesse de la société industrielle.
Un mot Bruce de Galzin, puis Arnaud Leparmentier.
Parce que ce que vous nous dites, Daniel Cohen, mais au détour d'une phrase, c'est que l'emploi industriel a un peu vécu, assez clairement, et que l'exemple le plus profond qui a illustré l'entre-deux-tours au niveau social, c'est Whirlpool. Beaucoup de questions sont posées, mais il faut être clair. Se battre contre les délocalisations industrielles, c'est très compliqué aujourd'hui, et plutôt investir dans les emplois de demain que rester harponné sur les emplois d'hier. C'est aussi simple que ça.
Oui, alors, tout à fait.
Daniel Cohen.
Tout à fait, mais tout de même pour colorer un peu, de manière un peu plus optimiste les choses. L'industrie elle-même s'est tertiarisée, c'est-à-dire qu'il y a des emplois industriels au sens où les emplois qui sont faits servent au bout du compte à fabriquer des biens et à vendre des biens industriels. Mais les emplois où il y a la valeur, c'est le marketing, c'est la publicité, c'est le design, c'est l'innovation, c'est le service, l'entretien à l'automobile. La part, pour prendre cet exemple, la part de la fabrication du bien, elle tend à se rétrécir, en partie à cause de la mondialisation et de la délocalisation, mais en grande partie tout simplement parce que les gains de productivité font qu'on a de moins en moins besoin de gens pour fabriquer un bien industriel. Mais quand même, beaucoup de gens tout autour, pour les penser, pour les commercialiser, pour faire du service d'entretien et du service après-vente. Donc, il ne faut pas dire le bien industriel disparaît, mais le secteur consacré à la production des biens industriels, oui, c'est comme les paysans au cours du XXe siècle, les gains de productivité fait que irrésistiblement ces emplois disparaissent. Mais l'industrie reste quand même le lieu où se fait 80% de la recherche et développement en France. C'est ça l'industrie aujourd'hui. C'est dans les centres qui conçoivent les biens qui sont ensuite fabriqués, K1KA, un peu partout. C'est
Arnaud, vrai. Le Parmentier.
Oui, je voudrais poser une question à Daniel Cohen, parce que vous faites remonter à la crise de 2008, finalement la crise morale qui affecte aussi bien les États-Unis que le Royaume-Uni que la France. En revanche, moi je voudrais savoir si le malheur français, ce malheur du chômage, ce n'est pas quelque chose de spécifiquement français. On a parlé de l'Allemagne tout à l'heure, après la crise financière, toutes ces banques ont fait faillite, ou presque. L'Allemagne a été autant frappée que la France, même plus, par la crise financière. Le chômage est resté longtemps beaucoup plus élevé en Allemagne qu'en France. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit qu'il n'y a, vous l'avez dit vous-même, qu'il n'y a quasiment plus de chômage aux États-Unis, que des millions d'emplois ont été créés en Allemagne. Donc, est-ce que, plutôt que de s'interroger sur une spécificité mondiale qui serait une évolution inéluctable, une désindustrialisation sur laquelle on pourrait débattre ou pas, puisqu'il n'y a pas de désindustrialisation en Allemagne, là où les Français ont perdu 900 000 emplois industriels. Donc est-ce que les causes ne sont pas purement françaises et beaucoup moins macroéconomiques, comme vous le dites ? Et c'était la réponse qu'avait François Fillon pendant la campagne électorale, c'était de dire « nous avons à faire les réformes que nous n'avons pas fait depuis 20 ans ». Est-ce que vous réfutez ou contestez toujours cette analyse en totalité ou en partie ?
Daniel Cohen.
En grande partie. Je redis le même chiffre. Le taux de chômage en France en 2008 était à 7%, 6,8% exactement au premier trimestre. Bon, c'est pas génial, mais disons que c'est le taux de chômage français. En effet, nos institutions, le poids de nos cotisations, tout ce que vous voudrez, nous distingue des États-Unis en ce que on est à 7 quand les États-Unis sont à 5. On peut tout à fait vouloir réduire ces deux points et considérer qu'il faut plus de toutes sortes de choses pour se rapprocher du modèle américain. Mais c'est une discussion, vous conviendrez, tout à fait différente de celle dont on parle quand on dit chez nous le chômage augmente indéfiniment alors que dans les autres pays il revient très vite à la moyenne et à la norme.
Moi je compare à l'Allemagne et au Royaume-Uni.
On va comparer aux deux, à l'Allemagne, au Royaume-Uni. On va faire un petit passage par l'Italie quand même qui est pas très loin non plus. Le taux de chômage est supérieur au nôtre. Elle a été frappée elle aussi par la crise. On va pas parler de l'Espagne qui elle est encore à des taux de chômage à plus de 20%. Donc il y a beaucoup d'autres pays qui sont frappés. Donc prenons en effet l'Allemagne et le Royaume-Uni. On va commencer par le plus facile, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'a pas donné le signe d'une satisfaction absolue avec son modèle social. Pourquoi ? Parce que, en effet, le Royaume-Uni a fait la voie que, je crois, nous n'avons pas collectivement envie de suivre, qui est, pour créer des emplois, bien, c'est très simple, on réduit ce qu'est l'emploi à la portion la plus congrue, on lui retire toute forme de protection, et on a eu donc une explosion des inégalités aux États-Unis, un mal-être général qui fait que les gens ont voté pour le Brexit, alors même qu'ils n'étaient dans aucune des institutions qui, aujourd'hui, pourraient être remis en question, à savoir les Schengen pour la migration internationale et l'euro pour le cadre macroéconomique. Éventuellement, on peut discuter. Ça veut dire qu'il y a un malaise. Je rappelle qu'aux États-Unis, qu'on nous donne en exemple, ils ont voté pour Trump. Ça veut dire qu'il y a une extraordinaire insatisfaction qui s'est exprimée à l'égard de cette façon de créer des emplois, qui est de les créer par la montée des inégalités. Alors, je crois qu'il faut pas choisir. Il faut accepter qu'il y a l'équivalent de ce qu'on appelait dans les années 60-70 la courbe de Phillips. Donc, petite parenthèse de professeur d'économie. La courbe de Phillips, c'est ce qui disait que dans les années 60, il fallait choisir entre chômage et inflation. Si vous vouliez réduire le chômage, il fallait accepter que ça crée de l'inflation parce que l'activité économique allait plus vite que c'était nécessaire et donc ça créait de l'inflation. Et Patrick Artus, dans un article qu'il avait écrit, j'avais trouvé très très intéressant, disait, cette courbe, elle est morte parce qu'il n'y a plus d'inflation de toute façon nulle part dans le monde. Il y en a une autre. Maintenant, c'est chômage et inégalité. Où est-ce qu'on se situe dans cette courbe ? Je veux réduire le chômage, ben, si je veux le réduire comme ça, hors les effets structurels dont on parlait, c'est-à-dire une croissance plus forte, intégratrice, portée par la productivité, mais comme ça, en claquant des doigts, si je veux créer plus d'emplois et réduire le chômage, on sait comment il faut faire. Il faut faire que l'emploi soit corvéable, qu'on puisse recruter, licencier, et ça, ça fait monter les inégalités. Où se situe la France dans cette courbe, dans cet arbitrage ? Certainement un point qui peut être amélioré, mais ce qui est certain, c'est que les États-Unis et l'Angleterre sont un autre point. Se pose du coup la question de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un peu entre les deux. L'Allemagne, effectivement, avec les réformes Schröder, a créé toutes sortes d'emplois qui sont à très faible coût, sans aucune protection sociale, à 400 euros, je ne sais plus à combien c'est maintenant, mais corvéable.
Il y a le SMIC maintenant, 8,30 €.
Ils l'ont, oui, tout à fait, mais bon, tardivement par rapport au modèle dont vous parlez, mais en tout état de cause, a choisi un peu cette voie. Mais c'est vrai que l'Allemagne nous fait envie parce qu'elle a réussi quelque chose d'extraordinaire qui est qu'elle a absorbé dans son giron industriel l'ex-Europe de l'Est. C'est-à-dire qu'elle s'est dotée avec la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, d'un formidable réservoir de travailleurs bon marché qui travaillent pour eux. Voilà. C'est ça le miracle allemand. Et ça se voit dans les statistiques. On l'a souvent eu l'occasion de dire. Le taux d'exportation et le taux d'importation en Allemagne sont tous les deux près de 50% supérieurs à ceux de la France parce qu'ils importent beaucoup de ces pays et ils réexportent des produits qui sont fabriqués. Donc là, oui, le miracle allemand, il est en partie qu'ils ont réussi à capter cet hinterland industriel qui leur a été donné par l'élargissement. Et nous, on n'a pas su faire de la même chose, même si on a des usines en Roumanie ou ailleurs, on n'a pas fait ça. Donc oui, elle a eu un choc de productivité tout à fait formidable dans cette opération, pas du Saint-Esprit, mais qui est quand même assez unique en son genre.
L'état économique de la France, débat passionnant avec Daniel Cohen, qui se poursuit jusqu'à 19h. D'ici là, 18h35 sur France Inter, direction le Carrousel du Louvre. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Alors l'ambiance est un peu mollassonne hein, vers chez vous, c'est-à-dire précisément à l'endroit où doivent se réunir les sympathisants d'Emmanuel Macron.
Bah oui, pour l'instant, il y a beaucoup de journalistes, hein, surtout. Là, je me trouve sous une gigantesque tente avec les 2000 journalistes accrédités.
Ah oui.
À l'extérieur, pas grand monde. Hein, à une dizaine de mètres d'ici, il y a une scène qui a été montée juste devant la pyramide du Louvre. Alors, c'est là que tout à l'heure, Emmanuel Macron fêtera sa victoire, hein, s'il est élu. Un lieu choisi un peu par défaut. À l'origine, le candidat d'En Marche voulait le Champ de Mars, mais la maire de Paris n'a pas donné son accord. Elle ne voulait pas que les pelouses soient abîmées avant la visite du Comité international olympique la semaine prochaine. Emmanuel Macron et son équipe se sont donc rabattus sur le Louvre qui n'est connoté ni de droite ni de gauche et avec l'avantage eh bien, d'être connu du monde entier. Le Louvre où le candidat en cas de victoire arrivera vers 22h. Pour l'instant, il est à son QG de campagne dans le 15e arrondissement de Paris, entouré uniquement de ses proches et de ses soutiens, François Bayrou, Gérard Collomb, Christophe Castaner. Les journalistes, eux, n'y ont pas accès. C'est de ce QG hein, qu'il devrait faire s'il est élu une première allocution très courte pour dire que le travail commence dès ce soir. Il devrait ensuite passer des coups de téléphone à des dirigeants étrangers avant de venir ici au Louvre, où il prendra normalement de nouveau la parole. 10 minutes de discours grand maximum.
Élodie Forêt, donc, au Carrousel du Louvre, qu'on retrouvera bien entendu tout au long de cette soirée sur France Inter. Direction maintenant le nouveau chalet du lac du Bois de Vincennes, où nous attend Sébastien Sabiron. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Nicolas.
Quelle atmosphère dans ce QG, entre guillemets, de Marine Le Pen et de ses soutiens?
Bien écoutez, on se souvient de l'ambiance populaire, de la ferveur du premier tour à Hénin-Beaumont il y a 15 jours. Ce soir, l'ambiance est plus empruntée dans ce chalet du lac où Marine Le Pen fêtera sa victoire en cas d'élection. Une salle de réception huppée du Bois de Vincennes, accès extrêmement sécurisé, énormément de CRS, un service d'ordre omniprésent côté FN. Un millier d'invités sont attendus ce soir, 500 journalistes sont accrédités, dont certains se sont vus refuser l'entrée. Quotidien, Mediapart, rue 89, notamment une douzaine de médias privés d'accès, au prétexte qu'il manque de place à l'intérieur de la place. Pourtant, il y en a sous la salle de presse ou dans la tente de presse où nous nous trouvons. Par solidarité, plusieurs médias boycottent la soirée. Ambiance légèrement tendue, donc en attendant l'arrivée de Marine Le Pen d'une minute à l'autre. Comme au premier tour, la candidate a voté à Hénin-Beaumont en fin de matinée. Comme au premier tour, des militantes fémaines ont joué les troubles fêtes, déployant une banderole près du bureau de vote. Marine Le Pen qui devrait s'exprimer ici peu après 20h. Et puis à 22h, les médias sont priés d'évacuer pour une soirée à huis clos, loin des micros et des caméras.
Sébastien Sabiron en direct donc du nouveau chalet du lac du Bois de Vincennes où se trouve le QG de Marine Le Pen ce soir. Quels sont les grands dossiers, Daniel Cohen, si on continue à parler économie? On a entendu la lecture que vous avez pu faire de la situation de la France aujourd'hui. Quelles sont les urgences dans les semaines, les mois qui viennent pour réformer économiquement le pays?
Bah, je crois qu'on les connaît tous. Bon, il y a une première urgence, c'est si on raisonne sur des perspectives et des horizons un peu plus longs, bon, c'est en effet de faire entrer la France dans cette économie numérique de la connaissance, c'est-à-dire de repenser toute la colonne vertébrale qui fonctionne, qui est fatiguée dans le cas français de cette économie de la connaissance qui va du primaire au secondaire, à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle. Tout ça ne marche pas bien. Notre système n'est pas à son aise. Les universités ne jouent pas le rôle qu'elle joue à peu près partout ailleurs, dans la formation à la fois des grandes masses et des élites. Il y a une polarisation, c'est le cas à nouveau de le dire en France, entre les grandes écoles et les universités, qui est dysfonctionnelle au regard de la recherche fondamentale, qui fait que les dirigeants d'entreprises qui sont passés par les grandes écoles, parfois n'ont jamais rencontré un prix Nobel de leur vie, parce que leur cursus ne les amène pas à le faire. Donc ça crée une sociologie tout à fait particulière quand il s'agit ensuite d'aller puiser dans les innovations les moyens de se ressourcer. La formation professionnelle est elle-même presque complètement orthogonale aujourd'hui aux formations qui sont données dans les universités. Les universités n'y contribuent absolument pas, alors qu'il faudrait que, bien entendu, elles jouent leur partie, ne serait-ce que pour donner des diplômes au cours de la vie. Bref, il y a tout un ensemble très important qui est vraiment ce qui fait, on parlait des États-Unis et de l'Angleterre, la grande supériorité de ces deux pays sur les nôtres, c'est que, notamment aux États-Unis, les universités, ça compte, c'est des vraies puissances, et elles jouent leur rôle, Harvard tout en haut, ou MIT, mais aussi toutes les universités de régions jouent leur rôle, elles sont respectées, elles ont de l'argent, elles ont des ressources. Nous, on est sur un budget, j'ose à peine le dire, le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche en France est 24 milliards. Vous avez vu pendant la campagne, sans citer personne, des milliards passés là, comme ça, 10 milliards ici, 15 milliards, 20 milliards.
400 même.
Et parfois, bon, évidemment beaucoup plus, mais sur des micro-mesures, on voit passer des dizaines de milliards en oubliant que le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, évidemment c'est l'universitaire corporatiste qui parle, c'est 24 milliards. Donc c'est dire qu'on est quand même très très loin de ce qu'il faudrait pour qu'on ait... Donc ça c'est, je crois, l'axe numéro un. L'axe numéro deux, bon, c'est celui qui fait mal, c'est en effet une réflexion sur le modèle social qu'on souhaite. Est-ce qu'on veut que les syndicats soient puissants ou est-ce qu'au contraire on veut les éradiquer? Est-ce qu'on veut aller vers un modèle social démocrate façon Suède, etc.? Sans doute que c'est souhaitable, mais encore une fois, les syndicats, ils sont très puissants. C'est ça qui fait qu'il y a une espèce de police, presque de moralité parfois, qui est à l'œuvre dans ces pays-là. Donc, est-ce qu'on sait le faire en France avec la CGT, la CFDT? Bon, donc tout ça, il y a une vraie réflexion. En France, on a eu la loi El Khomri qui s'est pas très bien passée. Il faut quand même reprendre ce dossier pour savoir ce qu'on veut, des accords de branche, d'entreprise, ce que fait l'État. Donc là, je crois que c'est un deuxième. Le premier, c'est la formation, mais le deuxième, c'est ce grand sujet. Et puis troisième, il faut une fiscalité moderne. Bon, il faut une fiscalité qui soit capable d'accompagner les gens dans leur transition. Moi, j'avais beaucoup apprécié à titre personnel l'idée du revenu universel. Elle est, je crois, morte pour longtemps. Mais quand même, il y avait quelque chose derrière cette idée qui disait que, quels que soient les aléas de l'existence, vous avez un socle qui vous permet de rebondir. Il s'agit absolument pas de penser que c'est la fin du travail qui rend cette idée nécessaire. Pas du tout. Mais je crois que les gens ont besoin de pouvoir aller, sortir, revenir. Donc, troisième volet, fiscalité, revenu, voilà, je crois que c'est les trois grands axes sur lesquels on doit réfléchir.
Bruce de Galzin.
Oui, sur le premier volet, précisément, l'OCDE nous donne, enfin, une donnée fondamentale de l'OCDE, c'est la France et la République tchèque, quand même, qui sont les moins bien notées, si on parle de l'ascenseur social, quoi. La catégorie sociale d'un élève a le plus d'impact sur ses études en France et en République tchèque, dans tout l'OCDE compris. C'est quand même un vrai problème, donc,
moi, je et là, les Allemands ont fait des efforts très importants, au-delà de ceux qu'on raconte toujours sur l'industrie, etc. Ils ont pris très au sérieux ces enquêtes que vous citez de l'OCDE, les enquêtes PISA.
Oui,
ils ont
dit comment... C'est un drame national.
Comment ça se fait qu'on soit si mal classé? Et ils ont repris la chose vraiment à zéro. Nous, il faut qu'on fasse exactement la même chose.
Dans vos trois chantiers, il y a pas la compétitivité de nos entreprises. Alors, c'est peut-être un peu, encore une fois, micro, là, cette fois-ci, mais on l'a vu, la fin du quinquennat s'est terminée avec un CICE qui montait en puissance, donc un crédit d'impôt, des baisses de charges pour les entreprises, mais un alignement des planètes assez surnaturel, avec des taux d'intérêt historiquement bas, avec des prix du pétrole historiquement bas. Les marges reprennent un peu, les marges des entreprises se refont un peu. Est-ce que ça, c'est un chantier que le futur ou la future présidente devra absolument mener à terme? On ne parle pas de la flexibilité ou notamment du travail, mais assez précisément de la fiscalité en France. On évoquait tout à l'heure le cas de la Grande-Bretagne. Le trou est béant entre la Grande-Bretagne et la France au niveau de la fiscalité des entreprises, des charges sociales, patronales, des cotisations patronales ou salariales. Est-ce que pour vous, c'est un chantier fondamental ou est-ce que là aussi, au contraire, c'est peut-être pas comme ça qu'on fait la différence.
Daniel Cohen.
Enfin, moi, je le mettais. Enfin, j'avais mon troisième chantier, c'était d'accord. La fiscalité. Ouais. Deuxième, c'était le modèle social. Donc, je crois. Non, mais vous avez raison. C'est dans les deux à la fois. Mais je voudrais juste dire quelque chose de très important sur le point 2, le modèle social. Le fait qu'en France, on a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la manière dont les relations sociales au sein des entreprises se mettent en œuvre et s'agencent. On a fait une enquête, toujours avec cet institut qui s'appelle le CEPRI. Supremap sur ce qui rend les gens heureux en France et partout ailleurs dans le monde. On sait que collectivement, pour une société donnée, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est-à-dire que la France a beau être deux fois plus riche qu'elle était en 1970, elle n'est pas deux fois plus heureuse. En fait, elle est à un niveau de satisfaction qui est plutôt un peu plus bas que ce qu'elle avait en 1970. Ce qui veut dire qu'il ne suffit pas de s'enrichir collectivement pour être collectivement plus heureux. En revanche, individuellement, c'est tout à fait différent. Si vous êtes plus riche que moi, vous serez plus heureux parce que vous pourrez acheter des choses que je ne peux pas me payer. Ça vous donnera une satisfaction qui se nourrira de la supériorité, de la position sociale que vous occuperez par rapport à la nôtre. Donc, dans tous les pays, on a le même diagnostic. Collectivement, l'argent ne fait pas le bonheur, mais individuellement, il le fait. Évidemment, ça fait partie des grandes contradictions culturelles du capitalisme. On va en parler. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en France, on trouve au niveau agrégé la même chose que dans les autres pays, mais au niveau individuel, on trouve quelque chose de tout à fait différent. L'appétence individuelle des Français pour l'argent est, quoi ? Beaucoup plus forte. Beaucoup plus forte.
On s'est trompé.
Mais c'est très intéressant, Arnaud, cette erreur. Parce qu'on a tous envie de dire, les Français, l'argent, pas du tout. Beaucoup plus forte qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce que dans le monde étriqué où nous vivons tous socialement, il faut de l'argent pour s'en sortir. C'est comme ça que les gens s'en sortent. Ça fait le lien avec la question de la compétitivité. En fait, en France, la négociation sociale, c'est du salaire ou je te vire, voilà, ou je m'en vais. C'est, on ne sait pas penser les choses autrement. On ne sait pas qu'à l'intérieur d'une entreprise, on peut rendre des salariés heureux autrement qu'en leur promettant des augmentations de salaire, à défaut desquelles, si on sent qu'ils sont malheureux, eh ben on les met dehors ou tout simplement on n'embauche pas. Il y a de l'épanouissement personnel possible en donnant de l'autonomie, des responsabilités, en faisant monter au sein d'une carrière donnée les gens en responsabilité. Toutes ces choses-là, qui s'appellent la qualité du dialogue social, la France le paye très cher. L'absence de ça, ça se paye très cher, ça se paye par le fait que, on le sait, c'est ce que disait Galois, un ingénieur, etc., toutes sortes, les gens qui sont, on va dire, au-dessus du niveau de subsistance sont plus chers qu'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'on achète en France la paix sociale. Donc, c'est pour ça que il faut arrêter de réfléchir, de penser la question de la compétitivité en termes de charges, coûts, etc. Au bout du compte, les charges, c'est du salaire différé. Donc, si les charges sont plus élevées, c'est que les gens, au lieu de cotiser comme aux États-Unis à des assurances privées, ils cotisent publiquement. Qu'est-ce qui fait que ça soit opaque aux gens? Pourquoi est-ce qu'ils ne considèrent pas que c'est du salaire différé? D'abord parce que notre système est opaque, donc ça effectivement, il faut le rendre plus simple et transparent, mais aussi parce qu'en France, il y a un appétit pour la revendication salariale qui est, je crois, en partie l'envers de notre incapacité à avoir un dialogue social apaisé. Il y a une étude qui avait été très très intéressante, qui avait été faite par Olivier Blanchard il y a très longtemps déjà, et Thomas Philippon, qui est un jeune Français qui enseigne à New York aux États-Unis, et qui montrait que si je prends le nombre de jours de grève dans les années 60 dans les pays de l'OCDE, eh bien ça me donne un excellent prédicteur de la montée du chômage dans les années 80-90. Comme si ces jours de grève étaient la traduction d'un malaise social qui se retrouvait en chômage 30 ans plus tard. Et la France est évidemment très très mal placée ici. Donc il y a une réflexion à avoir pour tout le monde sur la nature du dialogue social. Un autre de mes anciens élèves s'appelle Thomas Breda, a montré que les délégués syndicaux en France avaient des carrières systématiquement moins bonnes que les autres. Parce que le dialogue social fonctionne pas bien. Et ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que pour être délégué syndical en France, il faut prendre un risque. Et donc forcément, il y a un biais qui fait que c'est, on va dire, les plus radicalisés qui se proposent à ce poste, puisqu'ils savent qu'ils vont en subir les conséquences. Tout ça fait un système mauvais, malsain. Il faut absolument remettre ça.
Vous citiez Louis Gallois, Daniel Cohen. Je crois que c'est dans son rapport remis il y a quelques années, au tout début du quinquennat Hollande, que l'idée que la France devait monter en gamme, l'industrie française devait systématiquement monter en gamme dans ce qui est aujourd'hui l'économie mondialisée, vu ce qu'est un pays d'importance moyenne comme le nôtre. Ça veut dire quoi, monter en gamme?
C'est-à-dire être capable d'être plus inventif dans les produits qu'on vend, être capable de comprendre que la question n'est pas est-ce que je dois réduire simplement les coûts pour continuer de fabriquer ce bien, mais est-ce que je peux le réinventer, le numériser, bon, faire toutes sortes de choses qui font que ce produit redevient désirable. Donc la France, elle a besoin de retrouver cette unité qui va de l'innovation à la fabrication des biens. Et c'est quelque chose, en effet, que les Allemands ont fait un peu mieux que nous et auquel il faut réfléchir. Bon, je reviens sur ma topic, si je puis dire, qui est qu'en France, on a un peu plus de difficultés à faire ça qu'ailleurs, parce que, encore une fois, le système fait que ce sont dans les universités qu'un gros morceau de la recherche se fait, que sont les viviers d'innovation, et alors que les dirigeants sont recrutés ailleurs, où il y a d'innovation aussi. Enfin, je ne vais pas du tout dire que c'est bonne qualité, mauvaise qualité, c'est pas ça, mais c'est qu'il y a un grand partage des eaux qui a beaucoup de mal à se refaire. Donc, il faut qu'on ait, par exemple, autour de Saclay, une grande fusion qu'on a beaucoup de mal à créer entre l'université d'Orsay, de Polytechnique, etc. Ça a l'air d'être impossible à réaliser. Et pourtant, c'est là que se trouve une partie des solutions à notre problème d'innovation.
Il est 18h50, Luc Lemonnier, je le disais au tout début de cette première heure de notre édition spéciale. On va regarder également quels sont les grands dossiers diplomatiques qui attendent le prochain occupant de l'Élysée. Par où voulez-vous commencer sur la carte du monde, Luc ?
Je pense que c'est le rôle de la France en Europe qui va être déterminant et qui va donner, selon que ce soit l'un ou l'autre, une vraie orientation pour l'avenir. On a bien compris que Emmanuel Macron était pour le renforcement de l'Europe, là où Marine Le Pen est plutôt pour son désengagement. Donc la France en Europe, ça va être la grande question de...
Des années qui viennent.
Oui, mais même assez vite, sans doute. On va voir que les premiers déplacements vont être faits en Europe. C'est Angela Merkel qui va être immédiatement sollicitée, etc. Ou Theresa May c'est Marine Le Pen qui remporte cette élection. Sans doute que l'Asie va être une des questions fondamentales des années qui viennent. La Chine, le rôle de la Chine, les guerres qui s'annoncent autour de la péninsule coréenne, et tout ça sans doute va aussi mobiliser beaucoup le prochain président de la République. Et puis on a les conflits en cours, Syrie, Irak, Afghanistan. Effectivement, ça aussi, ça va sans doute...
Et puis j'imagine aussi la place difficile de la France entre ces deux superpuissances que sont la Russie et les États-Unis. Ce sont des superpuissances un peu spéciales, hein, quand même, aujourd'hui. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au milieu ? Seul, je ne sais pas si ça peut même marcher, mais en tout cas, à l'échelle européenne, j'imagine que là, il va falloir trouver une troisième voie.
Écoutez, c'est sans doute l'occasion pour le prochain ou la prochaine présidente française d'exister dans ces imprévisibilités américaines et russes. Probablement qu'il y a une troisième voie à trouver qui permet de se faire entendre en se démarquant et de l'un et de l'autre, peut-être.
Arnaud Le Parmentier.
Prenons deux hypothèses. Marine Le Pen est élue et donc on poursuit dans la décomposition entamée avec le Brexit, avec Trump et avec les démocraties libérales. L'autre solution, c'est si Macron est élu, on va sans doute avoir une Europe qui refait bloc, on va avoir un reflux qui a commencé avec l'élection autrichienne où finalement l'extrême droite n'est pas passée, avec les Pays-Bas où l'extrême droite n'a pas fait le score espéré. Mais moi j'ai une question à Daniel Cohen, le nouveau président va commencer ou commencerait sans doute par un voyage à Berlin. À chaque fois, ça commence comme ça, par un voyage à Berlin. Qu'est-ce qu'on peut demander et qu'est-ce qu'on peut obtenir des Allemands ? C'est quoi les sujets ? Est-ce qu'il y a un sujet allemand profond à résoudre ? Et quels moyens de mettre la pression sur les Allemands pour obtenir des résultats ? Je pense notamment à leur excédent extérieur qui représente 9% du PIB. Vous qui êtes macroéconomiste,
Oui, parce que la politique européenne de la France, elle commence effectivement à Berlin. Disons, la relance de l'Europe, elle passera nécessairement par Berlin. Daniel Cohen ?
Au niveau européen, enfin au niveau de la zone euro, on va reparler de l'excédent allemand qui est un peu différent comme sujet. Au niveau de la zone euro, on sait exactement ce qui manque à la zone euro. Il lui manque un budget. C'est simple, là, il y a pas photo. Il y a pas de budget. Donc chaque fois qu'il y a des interventions financières de la zone euro entre guillemets, c'est des relations intergouvernementales, c'est ce qu'on appelle l'Eurogroupe, qui décide de combien d'argent on va donner pour ceci et cela pour sauver la Grèce, l'Italie ou l'Espagne ou le Portugal. Et ça ne fonctionne pas, parce qu'il y aura toujours quelqu'un autour de la table pour dire vous pouvez pas aider ce gouvernement d'extrême gauche si c'est de Tsipras, vous pouvez pas créer le précédent de venir au secours d'une banque en difficulté si c'est l'Italie. Bon, il y aura toujours quelqu'un pour faire que ça ne marche pas. Et il faut évidemment une intelligence collective pour comprendre que c'est pas bien que la Grèce fasse faillite pour l'ensemble des pays de la zone euro. Ce serait pas bien que des banques italiennes fassent faillite sans qu'on vienne à leur secours pour l'ensemble de la stabilité bancaire de la zone euro. Bref, il y a besoin d'intelligence l'intelligence collective qui manque entièrement quand
vous
c'est
la, de vous la voyez arriver quand celle-là, cette donc, intelligence collective.
Donc non mais
non mais vous avez une date sur le calendrier ou pas parce que ça fait longtemps qu'on l'attend hein.
Donc il faut un budget de la zone euro qui soit capable de décider de l'usage des fonds qui lui sont dédiés pour résoudre tel et tel problème quand il se présente. Ce budget de la zone euro, il y a encore quelques temps, ça paraissait complètement impossible, absurde, etc. On en parle beaucoup. Hollande en parlait, comme si c'était évidemment une des options et des étapes. Ce qui a fait obstacle jusqu'à présent à ce budget de la zone euro, c'est la méfiance qui pouvait exister quant à l'usage qu'on ferait de ces fonds entre les Allemands et les autres pays. C'est ça toute la question. Est-ce qu'on est capable de passer au-delà de cette défiance et de pouvoir construire quelque chose qui ne serait pas des centaines de milliards, ce serait un budget de toute façon limité, destiné en gros à faire ce qu'on a fait jusqu'à présent avec l'Eurogroupe, mais dans lequel le ministre des Finances européen serait à la manœuvre sous la double tutelle du Parlement européen et des conseils des chefs d'État. Il ne faut pas trop se raconter l'histoire sur le fait qu'ils garderont cette tutelle.
Luc Lemonnier, oui, puis
ça veut
Bruce.
Dire accepter de perdre un peu en souveraineté. Mais c'est un peu pareil pour l'Europe de la défense. Ça ne se fera pas tant que chaque pays n'acceptera pas de perdre un peu de son rayonnement et de son influence sur les autres.
Moi, peut-être, ma naïveté, c'est de penser que ça n'est pas une perte de souveraineté, ni comme chez Rousseau, un gain, machin. C'est pas ça. Il faut donner à une instance qui s'appelle la zone euro les moyens de sa puissance et accepter à hauteur de, je sais pas combien, 100, 200 milliards, pas en train, pour l'ensemble de la zone euro, accepter de lui donner les moyens d'agir. Et à partir du moment où elle a les moyens d'agir, et quel que soit l'étiage qu'on choisit, alors, elle fait preuve de responsabilité puisqu'elle a des ressources rares. Il faut qu'elle les utilise à bon escient sous le double contrôle, encore une fois, je crois, du Parlement et du Conseil des chefs d'État. Mais c'est elle qui est à la manœuvre. Donc, est-ce qu'on est capable de faire un chèque? Dites-moi le chiffre, on va dire un point de TVA, j'en sais rien, pour que la zone euro soit capable d'agir. Ça, on n'est pas en train de dire...
C'est combien, c'est 100 milliards d'euros par an, un point de TVA? Ça fait combien?
À l'échelle de la zone euro dans son ensemble, je sais pas, je serais pas capable de faire le calcul, mais ça serait de ces ordres de grandeur-là. Donc ça ferait quelque chose qui soit capable. Il faut voir que la somme des interventions qui ont été faites par l'Eurogroupe au nom de la Grèce, etc., c'était 500 milliards en cumulé sur plusieurs années. Bon, enfin, ça sert à rien de rentrer dans le détail des chiffres.
C'est pas insurmontable.
C'est pour dire qu'il faut des sommes qui soient capables, qui permettent à la zone euro d'agir pour pouvoir se passer de l'accord de l'ensemble des gouvernements. Il faut un dispositif institutionnel qui permette de le rendre possible. Je pense franchement que ça n'est pas impossible à imaginer. Voilà,
mais c'est une Europe à plusieurs vitesses.
C'est l'Europe de la zone euro qui se dote d'un instrument qu'elle n'a pas aujourd'hui, qui a les moyens d'agir pour simplement consolider les politiques qu'elle a déjà engagées avec le mécanisme européen de stabilité, avec l'union bancaire, etc. Elle n'a pas de ressources, la zone euro, en propre. Donc il faut à chaque fois qu'il y ait un accord de tout le monde, dont le Bundestag. Donc c'est ça qui fait que l'Europe ne peut pas décoller. On ne lui donne pas les moyens d'agir.
Précisément, est-ce que c'est pas une Europe à deux vitesses que l'on dessine? Si on veut une Europe renforcée, est-ce qu'il faut garder une zone euro à 19, est-ce qu'un budget de la zone euro, c'est pas pour une zone euro renforcée qui décidément pourra envisager un avenir?
On peut tout envisager, mais quand même, bon, on a fait une union bancaire pour les pays de la zone euro. Je crois qu'une des grandes faiblesses de la zone euro, c'est qu'on a créé une union monétaire, par exemple, qui n'était pas une union bancaire. Donc, quand on y réfléchit avec le recul, c'est quand même juste complètement stupide, puisque la monnaie, c'est les banques. Et donc, si on crée de la monnaie, mais que les banques font faillite, il y a quand même quelque chose qui fonctionne pas. Donc, on a tous péché par naïveté intellectuelle. Moi, je me souviens dans les années 90, vraiment, de ces débats. Est-ce qu'il faut une union bancaire? Je rappelle que la France y était très hostile parce que la Banque de France, à l'époque, voulait absolument garder le contrôle de ces banques, les petites banques chéries. Les Allemands étaient contents aussi que ça ne se fasse pas. Bon, c'est ridicule, ça n'a pas tenu à l'échelle de la crise, et donc on comprend que c'était une erreur, tout simplement.
Il ne faut pas se renforcer pour redonner un coup d'élan.
Non mais on peut imaginer plein de trucs. Là, je parle vraiment de quelque chose de simple, de raisonnable et je pense de réaliste. C'est-à-dire, si une confiance mutuelle est retrouvée entre les partenaires de la zone euro, alors oui, je pense qu'on peut réfléchir à un budget qui permettra simplement à la zone euro de faire ce qui aujourd'hui se fait, mais à l'échelle de l'Eurogroupe, c'est-à-dire à l'échelle intergouvernementale. C'est une première étape. Après, on peut monter d'un cran et comme aux États-Unis, on parlait des années 30 avec Roosevelt, on a donné à l'État fédéral les moyens d'action encore plus importantes dans les infrastructures. On peut se faire plaisir. Les énergies et tout ça, on peut faire plein de programmes européens. Mais là, je parle d'une étape qui serait décisive et qui est, je crois, raisonnable à horizon du quinquennat qui vient de se mettre d'accord sur les paramètres qui permettraient de donner à la zone euro les moyens de sa puissance. Tout
ça. Pour ça, il faut avoir une confiance totale en l'Europe.
Il faut, en effet, qu'on accepte de dissoudre l'Eurogroupe dans un mécanisme communautaire. Oui, il faut donc il faut cette confiance, mais en même temps le budget est limité. Moi je dis pas on n'a pas un droit de tirage indéfini sur une caisse qui serait le contribuable allemand. C'est on met à disposition de la zone euro un budget d'un montant donné, mais ce budget la zone euro l'utilise comme elle veut, sous la double tutelle évidemment, comme dans nos parlements, du Parlement européen lui-même réuni en zone euro, évidemment, et je crois le Conseil européen, qui serait comme la chambre haute de ce dispositif-là. Maintenant, il y a d'autres mécanismes. Thomas Piketty avait réfléchi à d'autres choses. On peut envisager beaucoup d'autres dispositifs. Mais là, je crois qu'on est proche d'un mécanisme simple qui permettrait de fonctionner. Si on se fait confiance, c'est l'enjeu de ce qui va se passer dans les 5 prochaines années.
Daniel Cohen, on est tous dépressifs en France, donc j'ai honte de vous poser la question que je vais vous poser. Est-ce que la France reste un grand pays, ou est-ce qu'au minimum, elle a des atouts? 30 secondes pour répondre.
Bien sûr. Non, mais d'abord, c'est le débat sur l'Europe. La France en Europe, elle compte. On ne peut pas raconter le contraire. Peut-être un peu moins que l'Allemagne, c'est sûr, au cours des dernières années. Mais elle compte. Une France qui retrouverait confiance en elle-même au sein de l'Europe, avec de nouveaux paramètres sur la relation franco-allemande et italienne aussi. Elle compte. Est-ce que l'Europe compte dans le monde? Évidemment, c'est le plus grand marché du monde. Donc, quand il s'agit de négociations commerciales sur l'environnement, etc., l'Europe compte. Donc, oui.
Oui, voilà, c'est une belle réponse. Merci Daniel Cohen et merci à vous d'écouter France Inter. On est ensemble jusqu'à minuit pour cette édition spéciale autour du second tour de la présidentielle.